France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
En 1835, un quotidien new-yorkais publie 6 articles qui font l'effet d'une bombe. Selon ces derniers, le célèbre astronome britannique John Herschel vient d'observer, grâce à un nouveau télescope, la présence d'une vie foisonnante sur la Lune. Cette fausse information fait le tour du monde et conduit l'élite scientifique à démentir publiquement la soi-disant découverte. Comment expliquer le succès massif de ce canular et que nous dit-il des rapports entre science et médias au 19e siècle ? Science Chrono part aujourd'hui sur la Lune pour démonter l'une des plus grandes supercheries de l'histoire des canulars scientifiques. Bonjour Alexandre Marcinkowski.
Bonjour Antoine Beauchamp et merci de nous recevoir.
Merci à vous d'être ici. Vous êtes historien et chercheur indépendant, auteur d'articles consacrés au rapport entre la science et la littérature de l'imaginaire. Et vous êtes l'auteur du livre intitulé « La mystification lunaire, John Herschel et le canular de 1835 » paru aux éditions des Belles Lettres. Merci beaucoup, doublement donc, de venir nous parler aujourd'hui de ce canular scientifique d'envergure mondiale. Avant de raconter cette histoire, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous parlerons d'une technique qui bouleverse les études en archéo-anthropologie depuis quelques décennies. Il s'agit de l'étude des isotopes, autres que le carbone 14, qui sont présents dans les dents ou dans les os et qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre les inégalités sociales du passé. Mais avant d'aborder cette question archéologique, revenons à notre histoire des sciences avec vous, Alexandre Marcinkowski, ou plutôt à notre histoire de ce grand canular lunaire, le Great Moon Hoax, qui est né en 1835 aux États-Unis et qui a essaimé en Europe, alimentant tous les fantasmes autour de l'existence d'une vie luxuriante sur la Lune. Alors ma première question, Alexandre Marcinkowski, c'est comment est-ce que vous êtes tombé nez à nez avec ce canular-là ?
Pour vous répondre, très honnêtement, je suis tombé sur ce canular, ce Great Moon Hoax, en travaillant sur le roman scientifique. Donc je travaillais sur le roman scientifique, je lisais Jules Verne, et dans La Terre à la Lune, je tombe une première fois sur cette mention. Puis, par la suite, je regarde l'occurrence roman scientifique chez Balzac dans La Chronique de Paris, je tombe une deuxième fois là-dessus, je me dis c'est intéressant, je vais faire une petite note de bas de page. Et cette petite note de bas de page, bah, au fur et à mesure, elle a enflé, elle a gonflé, elle est devenue cet ouvrage, La mystification lunaire, voilà, tout simplement.
Elle est devenue un essai vraiment intéressant. Alors, on va poser le cadre et le décor dans lequel est né ce grand canular-là. Quelle était l'ambiance à New York en 1835 qui a permis à ce canular de prendre une telle envergure ?
Alors, en 1835, à New York, d'abord, il y a beaucoup d'émeutes raciales. Et c'est ce qui a marqué Richard Locke. Il est frappé par ça. Et en même temps, on est dans l'attente du passage de la comète de Halley. Et ça y va de certains pronostics. Mais ce qui prime toujours, c'est ces émeutes raciales. Mais je pense que Locke avait cette idée en...
Locke, c'est le journaliste, on en parlera bien sûr, qui fabrique ce canular-là.
Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'il avait en tête le passage de la comète. Et il s'est dit, ben voilà, pourquoi pas faire un article sur une découverte astronomique, par exemple. Voilà.
Puis ce qu'il faut dire aussi, Alexandre Marcinkowski, c'est que il y a un contexte médiatique favorable à la diffusion de ce type de canular. Quel est l'état de la presse américaine, ou tout du moins new-yorkaise, à ce moment-là ?
Alors, la presse new-yorkaise, aux États-Unis, il y a énormément de journaux. Il y en a plus d'un millier. Et à New York, il y a déjà une bonne douzaine de quotidiens. Arrive cette nouvelle presse qu'on appelle la penny press. C'est une presse à pas cher. Elle est vendue un cent. Et le New York Sun, il y a aussi le Herald, il y a le Transcript, qui sont des journaux vendus à un cent. Et en regard, il y a des journaux un peu plus chers, vendus 6 cents, qui traitent d'une actualité, je dirais, plus politique, plus diplomatique, internationale, financière. Le Sun, les journaux de la Penny Press, c'est une presse à sensation, c'est quelque chose, ça intéresse l'homme de la rue. Les urbains, on dirait aujourd'hui, les urbains qui... les classes populaires qui n'ont pas beaucoup de temps, qui s'intéressent plutôt aux affaires locales, au crime, je dirais au scandale politique, aux affaires de cœur.
C'est un peu les tabloïds de l'époque.
C'est un peu ça. Mmh. C'est d'après sa sensation et ça marche très bien. Cette presse qui est vraiment naissante et qui commence à prendre du volume.
Alors ce Richard Adams Locke, qui est-il et comment va-t-il s'insérer dans cette presse à sensation avec son grand canular ?
Alors, la vie de Richard Adams Locke, elle est pas tellement bien connue. Il est né en Angleterre, à East Brent, du côté de Bristol, en 1800. Et il est d'une famille de petits propriétaires terriens qui possèdent un moulin. Sa famille a quand même dans ses ancêtres des gens qui ont été shérifs, marchands. C'est une famille voilà, qui est assez riche. Et lui, il est persuadé du journalisme. Il adore le journalisme et il va faire Cambridge. Mmh. Ça, c'est ce qu'il nous dit. Sauf que les historiens n'ont jamais rien trouvé. On a fouillé les archives de Cambridge, on n'a pas trouvé du tout de Richard Locke qui ferait des études. Il s'engage plusieurs fois dans cette voie, à Londres, dans différents journaux. Chaque fois, en gros, il est viré. Il décide de retourner du côté de Bristol, dans sa province, je dirais dans son comté natal. Et là aussi, il est embauché. Et comme il a des idées vraiment républicaines, ça c'est en contraste avec les idées des journaux de l'époque. Et là aussi, il fait pas fortune. Il est remercié, il est licencié. Et il décide de partir. Donc, il se dit que la terre promise, c'est les États-Unis. C'est cette jeune terre qui pour lui est une sorte de terre d'abondance où il pourra trouver du travail. Et effectivement, il part aux États-Unis en 1832 avec sa femme et sa fille. Il s'installe à New York et à New York, il devient très vite reporter spécialisé dans l'affaire criminelle et il va couvrir un procès qui est le procès de Mathias le prophète. Donc c'est Mathias le prophète qui aurait empoisonné quelqu'un et donc qui est traduit devant les tribunaux. Et il suit ce procès et il en rend compte dans des comptes rendus qui sont très particuliers. Une technique narrative qui fait que les gens adhèrent tout de suite. Il a un style qui est très marquant, qui frappe le public. Et il est repéré par, à côté de lui, le patron, un grand patron de presse, enfin un patron de presse, celui du New York Sun, Benjamin Day, qui lui dit, j'aime bien ce que vous faites, est-ce que ça vous dirait de travailler pour moi, par exemple. Et c'est comme ça que Richard Adams Locke va travailler pour Benjamin Day. On y reviendra par la suite. Mmh. L'affaire du canular étant passée, il décide de quitter le Sun. On se demande bien pourquoi, parce qu'il a gagné beaucoup d'argent. Il a fait gagner beaucoup d'argent au Sun. Il quitte peut-être parce que, tout simplement, il a envie de monter son propre journal, d'être son propre patron. C'est ce qu'il fait. Il crée un journal avec un associé qui s'appelle L'Ère Moderne. Il a une petite idée en se disant, je vais reproduire un canular avec, soi-disant, des découvertes, en travaillant sur Bungo Park, l'explorateur écossais qui était descendu sur le fleuve Niger, il aurait laissé, soi-disant, un texte, et donc il l'aurait récupéré, et il voudrait reproduire ce canular. Les gens ne sont pas dupes du tout de cette affaire, et c'est un flop.
Mais on va se concentrer sur ce premier grand canular, et celui qui lui a valu ce succès, ce grand canular lunaire. Pour réussir un canular scientifique, il faut aussi une caution scientifique. Et Richard Adams Locke va prendre comme cobaye et comme victime collatérale de son grand canular un certain John Herschel. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet astronome-là et finalement nous décrire l'envergure qu'avait cet astronome-là en 1835 ?
Alors oui, il s'est pas attaqué à n'importe qui, il s'est attaqué à John Herschel, qui est l'un des plus grands scientifiques britanniques de l'époque. D'abord parce qu'il est issu lui-même d'une famille d'astronomes. Hein. Son père, William Herschel, est le découvreur d'Uranus. Sa tante, Caroline Lucrèce, est aussi une astronome confirmée. Donc il a, je dirais, des un père et une tante qui sont des pointures dans le domaine. Mmh. À l'époque, il a une quarantaine d'années, Herschel, il a une centaine de publications, il est médaillé, il parle plusieurs langues, il est connu, il dialogue avec tous les grands scientifiques, les grands savants de l'époque. Pour Locke, c'est du pain béni. Mmh. C'est un Britannique comme lui. Il a lu les travaux d'Herschel. Le bouc émissaire idéal.
Et puis là où Locke est quand même assez malin, c'est qu'il sait que pour qu'un canular soit convaincant, il faut qu'il y ait toujours une part de vraisemblable et qu'il y ait une part de réalité, finalement, dans le canular. Et il se trouve qu'il va situer l'observation bouleversante de la vie sur la Lune par John Herschel. Il va situer cette première observation en Afrique du Sud. Et il se trouve que, justement, John Herschel est, à ce moment-là, en Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce qu'il fait vraiment, pour le coup, là-bas, à ce moment-là ?
Alors, justement, là, sur ses fonds privés, John Herschel, qui avait cartographié déjà l'hémisphère nord, décide de partir au Cap, où il y a un observatoire royal depuis quelques années. Et il décide de partir au Cap en 1833 avec sa femme. Et il s'installe à une dizaine de kilomètres du Cap, à Feldhausen, où il amène son matériel, un gigantesque télescope, et puis il en amène des plus petits, évidemment. Et donc, il a l'idée de cartographier l'hémisphère sud. Voilà, tout simplement. Et ça, Locke doit le savoir, et se dit, c'est propice à une petite histoire.
Et cette petite histoire, elle commence vraiment comme une histoire à rebondissement et à suspense. Je prends un court extrait du premier article qui dit « Nous venons juste d'apprendre d'un éditorialiste réputé de cette ville, qui est Édimbourg, que Sir John Herschel, au Cap de Bonne-Espérance, a fait des découvertes astronomiques des plus merveilleuses au moyen d'un immense télescope d'une nouvelle conception. » Donc là, on entend les tambours qui résonnent déjà de ce spectaculaire que vont proposer ces six articles de Richard Locke. Comment s'organise la suite des articles à partir de ce premier article ? Quelle est la structure narrative, on va dire, proposée par Locke ?
Le premier article est très, très descriptif. C'est quels sont les... Il retrace très brièvement, mais une histoire de l'astronomie, quels sont les grands télescopes, les grands astronomes qui ont participé. Et au fur et à mesure, il va arriver sur... Alors, il parle du réel, des choses qui existent. Puis après, il va commencer à glisser des éléments qui n'existent pas, hein, qu'il invente lui-même. Hein. Donc, ce procédé un peu révolutionnaire, entre guillemets, à hydroxygène. Donc, on se demande ce que c'est.
Télescope à hydroxygène. Qu'est-ce que c'est ? Comment il le décrit, ce télescope révolutionnaire,
soi-disant ? Il dit que ça amène un afflux de lumière et que ça permet de voir beaucoup mieux. Ce qui est, pour les vrais astronomes, une absurdité totale. Il s'était basé là-dessus, je pense, à New York, il y avait eu une grande exposition où on avait montré via un microscope justement ce que pouvait être l'infiniment petit. Et il s'est dit, tiens, ben moi je vais montrer l'infiniment grand, comme si on voyait la Lune quasiment à un mètre. Mmh. Donc voilà ce qu'il a voulu faire. Et après, donc, il s'est amusé à décrire au fur et à mesure, une fois qu'il a parlé du télescope et des astronomes, il s'est amusé à décrire cette vie sur la Lune.
Et c'est des poupées russes, finalement, ce canular, parce qu'il parle justement de cet article dans un journal écossais qui, en fait, si on est attentif, a déjà disparu depuis 3 ans, publie le récit d'un certain docteur Grant qui accompagne John Herschel. Quelle mise en scène on lit dans ce grand canular lunaire du scientifique au travail ? Comment il présente John Herschel au travail ?
Il le présente pas vraiment. Il dit, voilà, il est avec ses acolytes, et puis donc avec tous les soirs, il balaye avec son télescope l'espace, et puis là, quand il regarde la Lune, voilà, il tombe sur un endroit très particulier qu'il avait déjà un peu en tête, c'est le cratère Langrenus, et là, il a commencé à voir effectivement de la vie. Mais juste avant, il avait vu... des animaux extraordinaires, des oiseaux qu'il avait confortés à ce qu'il pouvait trouver par la suite de beaucoup plus humanoïdes.
Alors parlons justement des découvertes que réalise soi-disant John Herschel en 1835 sur la Lune. Il commence par observer à quoi ressemble ce monde foisonnant qui pullule sur la Lune.
Alors au départ, il voit des sapins, une forêt de sapins, il voit je dirais, du végétal. Et au fur et à mesure, alors il voit aussi des mers, et puis des lacs, et puis tout d'un coup, il voit effectivement des oiseaux, alors qui ressemblent, qui sont assimilés à des pélicans ou des échassiers. Et puis, plus il va, il découvre autre chose. Hein. Il va commencer à voir des bisons, une sorte de petite voilette sur les yeux pour éviter de recevoir trop vite le soleil. Et il va trouver une sorte de chèvre unicorne, des castors bipèdes. Et pour arriver, alors là, c'est le coup du spectacle, c'est au fil des articles. Justement, il trouve une forme humanoïde qui est un peu simiesque, hein, qui a des poils, des longs poils, qui a un pelage un peu cuivré et qui ressemble plus à un singe, mais qui possède des ailes de chauve-souris.
De chauve-souris. Voilà. Donc cette description-là, pour nous, en 2025, on se dit c'est quand même redoutablement fantaisiste. Est-ce qu'on a un moyen de savoir, Alexandre Marcinkowski, qui croit à ça? Enfin, je veux dire, en 1835, est-ce qu'on peut être suffisamment crédule pour croire à cette description totalement fantaisiste d'une vie lunaire?
Alors, difficile de répondre à cette question parce que il n'y a pas de micro-trottoir à l'époque. Mmh. Donc, la question de la croyance, on ne sait pas si les gens adhèrent, parce qu'on peut penser que c'est un pur divertissement. Ce qu'ils disent, ils considèrent que c'est un divertissement. Ça, on a peu de moyens de le savoir. Celui qui nous livre un peu juste son témoignage, c'est Edgar Poe, qui dit 9 personnes sur 10 y ont cru, même les plus intelligents, en disant, même si on est très intelligent, comme certains professeurs, ils y adhèrent. Alors que moi, Edgar Poe, j'ai tout de suite vu que c'était un canular.
On verra bien sûr pourquoi Edgar Poe, le célèbre auteur américain, a finalement été un peu vexé par le succès de ce canular-là, puisque succès il y a, c'est un succès colossal, ce Great Moon Hoax, ce grand canular lunaire. Est-ce qu'on a des chiffres, voilà? Est-ce que les ventes explosent à la suite de la parution des premiers articles de...
Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Les ventes du Sun, on estime qu'elles sont à peu près à 4000 exemplaires jour. Et à l'issue des 6 articles, c'est entre 27 et 30 000 exemplaires qui sortent des presses. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, c'est qu'en quelques jours, c'est un raz-de-marée. Oui. Et ce canular, d'autres journaux vont le reprendre. Donc ça va faire boule de neige, ça va être amplifié là-dessus. Le Benjamin Day, le patron du Sun, décide de les réunir et d'en faire une petite brochure qu'il va vendre. Ils vont en faire aussi des lithographies. Donc il y a tout un business qui se fait là-dessus. Et c'est très... alors certains, pour rebondir sur votre idée de croyance, il y a les journaux, les rédacteurs en chef des journaux sont très partagés. Il y a ceux qui disent « Ah, c'est fabuleux ce qu'on a découvert sur la Lune ». D'autres qui sont, on attend un peu, qui sont beaucoup plus attentistes. Il y a ceux qui disent c'est n'importe quoi.
Ridicule, ouais.
On est en train de mentir à tout le monde. Mmh. Et parmi ceux-là, il y a le Herald, qui est
le concurrent direct
du Sun. Et alors lui, c'est vraiment le Herald qui va attaquer le Sun, qui va essayer de le contraindre à la faute en disant avouez que vous avez fait un canular.
Et pendant ce temps-là, le pauvre John Herschel, en Afrique du Sud, continue ses observations et n'a pas encore eu vent de cette information. Pourtant, bon, à l'époque, il n'y a pas encore Internet, bien sûr, le télégraphe n'est pas encore développé. Comment l'information lui parvient-elle et quand?
Alors, elle lui parvient d'abord parce qu'il y a la Royal Navy patrouille et régulièrement le port du Cap sert de base à la Royal Navy. Donc il y a des savants qui viennent lui donner des nouvelles. Mais il l'apprend par un directeur de zoo qui vient chercher des animaux sauvages, des girafes, et qui lui amène une pile de les journaux plus la brochure. Et donc là, ça, on n'arrive pas à dater là, à peu près quand est-ce que cette visite avec Caleb Weeks, ce directeur de zoo, on n'arrive pas à la dater. Mais Herschel est amusé, il se dit tiens, c'est sympa. Mais après, il y a le capitaine Hall qui lui dit la même chose. Il y a Francis Beaufort, l'hydrographe royal, qui lui dit encore la même chose. Arago va le défendre. Il y a quand même tout un faisceau de, je dirais, d'indices qui fait que il faut le prendre au sérieux, ce canular.
Le lait est en train de monter sérieusement sur le feu et il va devoir réagir. Le 21 août 1836, donc, John Herschel rédige une lettre au rédacteur en chef de la revue britannique L'Athénéum où il parle entre humour et agacement des découvertes qu'on lui prête sur la Lune. Et curieusement, il n'enverra jamais cette lettre. Alors, avant de se demander pourquoi il n'a jamais envoyé cette lettre, lisons-la. Laurent Blanpin prête sa voix à John Herschel. C'est l'archive de Science Chrono.
Monsieur, comme je constate dans une annonce parue dans l'un des journaux londoniens que j'ai sous les yeux que les absurdités auxquelles il est fait allusion dans l'entête de cette lettre ont enfin trouvé un éditeur londonien après avoir fait le tour des journaux américains et français, il me semble qu'il est grand temps de désavouer toute connaissance ou participation aux délires incohérents qui m'ont été attribués sous le terme de « découverte ». Je suis persuadé que vous me rendrez service en insérant ce démenti dans votre journal largement diffusé et bien administré. Non pas parce que je crains le moins du monde qu'une personne possédant les rudiments de la science optique, sans parler du bon sens, puisse un instant être induite en erreur et croire à de telles extravagances. Mais parce que je considère comme un mauvais précédent le fait que l'absurdité d'une histoire garantisse son absence de contradiction lorsqu'elle est universellement répétée dans tant de milieux et sous une telle variété de formes. De fait, le docteur Johnson avait coutume de dire qu'il n'y a rien d'aussi absurde ou impossible qu'un homme finisse par croire si on le lui répète sérieusement tous les matins au petit déjeuner pendant 365 jours. Et Napoléon avait pour maxime que la figure la plus efficace de la rhétorique est la répétition. Or, je regretterais, pour mon propre compte et pour celui de la vérité, que l'humanité, ou même la partie la plus crédule de celle-ci, soit amenée à croire que je connais personnellement l'homme de la Lune. Sachant que je ne tarderai pas à être harcelé jusqu'à ce que mort s'en suive pour obtenir des anecdotes privées sur lui et sa famille. Et n'ayant guère l'intention et encore moins l'envie de rire de cette supercherie, a passé en définitive pour un triste sire fort peu communicatif lorsqu'il s'avérerait que je ne pouvais ou ne voulais rien dire de plus à son sujet que ce qui est déjà connu de tout le monde, à savoir qu'il boit du Bordeaux, se nourrit de navets et de carottes parsemées de bœuf et qu'une tasse de vieux malayasac suffit à enflammer la meute sur ses talons. Votre serviteur, John Herschel.
Voilà, Alexandre Marcinkowski, vous reproduisez cette lettre jamais envoyée par John Herschel dans votre livre « La mystification lunaire ». Qu'est-ce qui vous a marqué dans le contenu de ce texte et est-ce que ça vous a surpris que Herschel n'ait jamais envoyé cette lettre ?
Alors, ce qui est marquant, c'est qu'il comprend tout de suite que le buzz fait qu'il va être complètement noyé sous les demandes diverses et variées, des fois les plus bêtes qui soient. Et donc ça le gêne parce que c'est quand même un scientifique d'envergure, je dirais, internationale. Et qu'on lui prête des sottises, ça lui paraît juste dingue. Mmh. Quant à la question pourquoi il l'envoie pas, c'est une bonne question. Il écrit donc à Charles Dick, qui est le patron d'une très grande revue, d'un très grand magazine, qui est l'Athénéum, ce qui correspondrait en France à la même époque à la Revue des Deux Mondes. Donc c'est déjà le journal de Dill qui avait fait des comptes rendus assez élogieux de ses travaux. Donc c'était tout à fait logique que Herschel envoie une lettre pour faire un démenti. Il ne l'envoie pas. Vous avez donné la date, elle est datée de fin août 1936.
Un an après...
Le canular a eu lieu aux États-Unis, fin du 21 au 30, à peu près au 30 août 1835. Un an s'est écoulé. Il n'y a plus médiatiquement, je dirais, aux États-Unis, comme après en France, dans les années en mars et en avril 1936, ce n'est plus d'actualité. On est passé à autre chose. Donc, peut-être qu'il soulage sa conscience et il marque, effectivement, ça l'a profondément agacé, mais elle n'a plus lieu d'être, cette lettre. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'envoie pas, tout simplement.
On a parlé de la circulation de cette lettre. Donc là, on est en 36, un an après les articles de Locke. Vous parlez de la France. Il y a des grands noms des sciences, et notamment de l'astronomie, comme François Arago, qui vont quand même aller devant l'Académie des sciences et parler de cette supercherie, de ce canular, et dire « attention, on essaie de nous tromper ». Alors, décrivez-nous ce moment aussi entre science et médias qui se passe en France autour de ce grand canular lunaire.
Alors, François Arago a fait une chose quand il est arrivé à la tête de l'Académie des sciences, c'est qu'il a permis aux journalistes de suivre les débats, et donc de retranscrire certains débats. Et donc, la presse, notamment le national d'Armand Carrel, donne l'information. Mais tout de suite, Arago dit, c'est une mystification. C'est quelque chose qui est... On ne doit pas prêter attention à ça, c'est des bêtises. Mmh. Donc, et la presse française n'en parle quasiment pas là-dessus. Elle se tait parce que elle est préoccupée par un grand procès. C'est le procès de Fieschi contre... l'attentat qui a été fait, commis quelques mois avant contre le roi Louis-Philippe. Et ça mobilise l'attention des journalistes. Mais passé ce moment, la presse française va embrayer et forcément les scientifiques français, les polytechniciens vont tout de suite voir que c'est effectivement une mystification.
Et cette mystification, elle a quand même eu un succès aux États-Unis, on l'a dit, mais en Europe, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne se font l'écho à plusieurs reprises quand même de ce grand canular. Comment expliquer là aussi cette diffusion occidentale massive ?
Alors, on est à un moment où la presse devient un espèce de débat. Donc, on peut facilement échanger. Après, c'est un événement qui est tellement marquant que ça frappe les imaginations. Et c'est pour ça que alors je vais rester sur le cas de la France, le théâtre s'en empare. Et donc, il va y avoir des vaudevilles qui vont mettre en scène, effectivement, un amateur d'astronomie qui pense être sur la Lune et qui rencontre des hommes chauves-souris. Ça peut être des chansonniers qui vont se moquer d'Herschel ou qui vont dire que sur la Lune, tout est mieux que sur la Terre. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Donc ça se diffuse, je dirais, dans toutes les strates de la société.
Et cette influence elle, dans la culture populaire, on va la retrouver jusque dans les romans de science-fiction de Gustave Le Rouge, avec ces martiens qui ont des ailes de chauve-souris également. On arrive à la fin de notre discussion déjà. Alexandre Marcinkowski, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette mystification lunaire. On peut dire quand même que le canular prend fin vers 1838, 39, 40 même. En tout cas, Locke dit « j'ai fait ça parce que la religion a trop d'influence sur la science » et je voulais le dire parce qu'à cette époque, les croyances de l'existence de la vie ailleurs dans l'univers n'étaient pas incompatibles du tout avec la religion et certains philosophes chrétiens propageaient cette idée-là. Donc voilà le fin mot de l'histoire de cette mystification lunaire. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Je rappelle le titre de votre ouvrage « La mystification lunaire, John Herschel et le canular de 1835 ». Merci encore.
C'est moi qui vous remercie.
Yo no he tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora. Y sé que lo que más espero, lo más que se enamora. 3, 7, 10, ya no me ves. Pero si al vez digo tu nombre, saberás quién es. Soy el perro a tus pies que te muerde la costilla y la estrella brilla y la luna se sienta en su silla. ¿Qué tomas, lunita, y por qué estás tan amarilla?
Bueno, ya estoy cansada y mi hija ya me dice viejita. Pues mi pelo está seco y mi piel ya no brilla. Pero el mundo es tuyo, esta noche eres mía. Así que quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna.
Quédate Luna par Devendra Banhart pour tourner cette page lunaire de Science Chrono sur France Culture. On se dirige à présent vers une étude qui éclaire le passé sous un nouveau jour.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
La découverte d'un vestige archéologique pose la question du moment de sa formation et donc de son âge. Pour répondre à cette question du quand, on utilise depuis la deuxième moitié du XXe siècle la technique de datation au carbone 14. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que le carbone 14 est un isotope de l'élément carbone et qu'il existe d'autres isotopes venant d'autres éléments, comme l'oxygène, le strontium ou le soufre, qui peuvent nous livrer de plus amples informations sur les humains du passé, comme leur déplacement ou leur alimentation. Depuis le début des années 2000, cette méthode isotopique ne cesse de se développer pour nous livrer des portraits chaque fois plus fidèles de ces individus souvent morts avec leurs secrets. Notre invité du jour a fait de cette étude des isotopes l'une de ses spécialités et grâce à cette technique parvient à faire parler les morts, mais aussi à préciser les contours d'une sociologie du passé, notamment en matière d'inégalité. Comment cette enquête chimique nous permet-elle donc d'éclairer sous un nouveau jour l'histoire et celles et ceux qui l'ont faite? C'est la grande question que nous allons traiter avec vous. Rosane Colter, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéo-anthropologue à l'INRAP et au Centre d'anthropologie génomique, une unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université de Toulouse. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous aider à comprendre la place qu'occupent aujourd'hui les études isotopiques dans l'archéo-anthropologie. On va parler des méthodes utilisées en archéo-anthropologie pour dater les vestiges archéologiques, mais aussi pour obtenir bien d'autres informations qui permettent d'une certaine façon de redonner chair aux humains du passé et de dessiner leurs itinéraires. Et comme je le disais à l'instant, ce sont les isotopes qui vont nous servir de fil rouge dans cette enquête archéologique. Alors Rosane Colter, on va commencer par un tout petit rappel et un bref rappel de chimie. De quoi parle-t-on quand on parle d'un isotope ?
Un isotope, c'est une version d'un élément chimique qui est un peu différente, qui a un nombre de protons pareil, mais un nombre de neutrons différent. Par exemple, si on a un atome qui a un proton, on sait que c'est de l'hydrogène. S'il a 6 protons, c'est du carbone. S'il a 26 protons, c'est du fer. Donc, plus il est lourd, plus il a de protons. Mais par contre, s'il a un nombre différent de neutrons, ça ne va pas changer. C'est toujours le même élément. Ça va toujours être du fer s'il a 26 protons, mais il peut avoir une différence de neutrons. Et donc, on utilise comme ça l'isotope du carbone, donc c'est cassé 6 protons, mais qui peut avoir 12, 13, 14 neutrons. Et en fonction des neutrons qu'on utilise, on va pouvoir étudier différentes choses sur cet atome.
Alors là, on parle du carbone. Le carbone 14, c'est un peu l'exemple type en matière d'isotope utile en archéologie. Qu'est-ce qui, dans le carbone 14, justement, permet de dater le moment de la formation d'un vestige archéologique avec une plus ou moins grande précision ?
Alors, l'isotope du carbone 14, c'est un isotope qui est radiogénique, c'est-à-dire qui est radioactif, donc qui va se décomposer au fil du temps. Il va se désintégrer et on sait le temps qu'il met à se désintégrer. Donc, tous les 5700 ans, il va perdre la moitié de sa masse. Et donc, en faisant une règle de 3, comme ça, on arrive, quand on compte les isotopes du carbone 14 dans un échantillon, dans du collagène, on arrive comme ça à remonter dans le passé. Et donc, moins il a de carbone 14 qui va dans l'échantillon, plus il va être vieux. Et on arrive comme ça à remonter jusqu'à temps qu'il n'est plus du tout, autour de 40 000, 50 000 ans.
Voilà, donc ça, c'est un peu la borne en matière d'utilisation du carbone 14. On ne peut pas aller beaucoup plus au-delà.
On ne peut pas aller plus au-delà, mais après, on peut utiliser d'autres types d'isotopes. Donc, l'isotope, par exemple, du potassium-argon, lui, c'est pareil, il va désintégrer naturellement un rythme qui est connu. Et lui, on va pouvoir dater des choses beaucoup plus anciennes, des roches volcaniques, par exemple. Bon, c'est des principes que je connais moins. Mais nous, en archéologie, on utilise beaucoup, surtout quand on étudie les périodes récentes, le carbone 14. Et après, on peut aussi calibrer ces datations en fonction de l'endroit où on est. Donc, on a utilisé, pour savoir un peu cette baisse de carbone, on utilise la dendrochronologie, donc l'étude des cernes des bois. Et on cale un peu ça et on a des courbes de calibration qu'on peut utiliser, qui sont différentes dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, et qui nous servent à calibrer les dates quand elles reviennent de laboratoire.
Là, quand on parle de carbone 14, on parle typiquement d'un isotope instable. Qu'est-ce qui fait l'instabilité de cet isotope-là et quelle différence il y a avec, bien sûr, l'opposé, les isotopes stables ?
C'est juste justement le fait que lui va se désintégrer. Alors que l'isotope stable, lui, quand la personne va mourir, il va rester coincé en fait dans le collagène et lui, il va rester, il va pas, comme il n'a pas cette instabilité, on va pouvoir lire les résultats de cet isotope vont nous donner les derniers moments de la vie de la personne. On pouvait justement travailler sur différents types d'isotopes, comme vous l'avez rappelé au début, pour travailler sur l'alimentation, mais aussi sur la mobilité. Enfin, on a toute une galerie d'isotopes, et puis ça ne cesse d'évoluer. Il y a plein de chercheurs. Moi, je ne suis pas géochimiste, donc moi, je suis archéologue au départ et anthropologue. Et donc, c'est une méthode sur laquelle je me suis greffée, mais il y a plein de géochimistes qui travaillent là-dessus, qui vont travailler sur des nouveaux isotopes pour chercher d'autres fonctions.
On va parler, bien sûr, de l'apport de ces isotopes à votre travail d'archéo-anthropologue. D'un point de vue de la méthode, comment ça se passe étape par étape quand on découvre un vestige archéologique et qu'on cherche et qu'on mène cette enquête isotopique, justement, pas seulement sur le carbone 14, mais aussi sur les autres isotopes? Comment on va baliser le terrain des isotopes?
On peut travailler sur différentes choses, en fait, avec les isotopes. On peut travailler sur le collagène, mais on peut aussi travailler sur la bioapatite, donc des matières un peu plus dures qui vont se garder plus longtemps. Donc, si on travaille sur le collagène, d'abord, on va nettoyer l'échantillon. Enfin, on va déjà fouiller le squelette, évidemment, et après, on va déterminer, vouloir donc faire une étude. Donc, on va prélever un morceau du squelette. En général, un morceau de côte ou un morceau de phalange suffisent. Donc, ce sont des os qui sont nombreux dans le corps humain et qui n'ont pas une grande valeur, on va dire, ostéologique. Enfin, si la côte n'est pas fracturée ou la phalange, on peut facilement la détruire, contrairement à d'autres os, par exemple comme le crâne ou le bassin, qui vont avoir une autre utilité d'un point de vue archéo-anthropologique pour déterminer l'âge au décès, par exemple, ou le sexe des individus. Donc, on prend des os, on va dire, qui ont une faible valeur scientifique. Et ces os-là, on les nettoie en laboratoire, donc c'est quelques grammes. Hein. Puis après, on va extraire le collagène, donc avec des procédés chimiques particuliers. Et puis, une fois qu'on a réussi à avoir ce collagène, donc qui va ressembler un peu à une petite boule de coton, on va passer donc cet échantillon qu'on va peser. Donc, on fait des tout petits prélèvements, des petites capsules. Et ces petites capsules-là de collagène, on les met dans des spectromètres de masse qui vont brûler l'échantillon. Et on va après lire donc les données de ce spectromètre qui sont calibrées donc pour avoir le carbone et l'azote, mais qui peuvent être calibrées pour avoir le soufre ou d'autres données. Et plus les isotopes les plus lourds vont brûler à la fin. Donc d'abord on a les plus légers qui vont brûler. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à lire en fait des pics. On a des pics et puis on arrive à savoir combien il restait dans l'échantillon de carbone, d'azote, de soufre. Voilà.
Il faut aussi parler du référentiel local des isotopes, puisque on prélève bien sûr des isotopes sur ces ossements dont vous parliez à l'instant, Rosenkolter, mais il faut aussi avoir une espèce de carte d'identité du lieu, de la région en matière de normes isotopiques.
Alors c'est ça le gros point d'intérêt, c'est d'avoir... On travaille à l'échelle d'un site archéologique, donc de plusieurs sujets qu'on va pouvoir séquencer, mais il faut le référentiel local, comme vous le dites. Donc on va prendre la faune qui est sur place, et à partir du moment où on connaît dans la chaîne trophique qu'un herbivore mange de l'herbe, nous on va pouvoir savoir l'humain... avec l'azote, on a sa chaîne, on a sa position dans la chaîne trophique, donc on va pouvoir savoir s'il mangeait des herbivores ou s'il était plutôt végétarien, s'il était plutôt carnivore, piscivore. Donc on arrive à voir ça avec la faune locale, puisque la faune locale, si elle est dans des champs qui sont beaucoup amendés, qui ont beaucoup de fumure par exemple, eh ben le sol il va être plutôt chargé en azote. C'est pareil, si la faune va manger une alimentation qui a des plantes de type C4, c'est des plantes qui sont très résistantes au soleil, qui sont efficaces parce qu'elles ne perdent pas beaucoup d'eau, et ben, comme le maïs, le sorgho, donc ça c'est des plantes qu'on ne trouve pas en Europe, qui ne polluent pas trop nos échantillons, mais le millet en fait partie, et le millet donc voilà, il peut renforcer ses valeurs de base d'azote. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir la faune locale à chaque fois pour pouvoir savoir vraiment où se trouvent les humains, nous, qu'on étudie.
Et un autre élément aussi, une question que je me posais, c'est quels avantages fournit l'étude des isotopes par rapport à une autre star en matière d'archéoanthropologie, l'ADN ancien ?
Alors sur les isotopes, on va vraiment parler du vécu de la personne. On va savoir donc ce qu'elle a mangé, donc avec le carbone et l'azote. On va savoir aussi où elle a vécu, en travaillant par exemple sur les isotopes de l'oxygène, du strontium et du soufre. Alors que sur l'ADN, on va plutôt savoir sa filiation, d'où elle vient cette personne. Donc on va pouvoir parler de matriarcat, patriarcat, on va pouvoir parler de regroupement familial dans la nécropole par exemple, on va pouvoir parler de phylogénie, on va pouvoir parler d'épigénétique, donc tout ce qui entourait la personne. Mais notre ADN, il va pas changer. On a quelques mutations, mais on va pas changer au cours du temps.
L'ADN, c'est un peu finalement le livret de famille, et les isotopes, c'est plus le journal intime, la biographie d'un individu.
Ben voilà, les deux se complètent bien et les deux et en plus maintenant de plus en plus on essaye avec le même échantillon, notamment si on travaille à partir des dents, d'essayer de faire et de l'ADN et des isotopes pour détruire le moins possible ces échantillons.
Oui, là vous le rappeliez aussi tout à l'heure, le fait que ces isotopes, on les retrouve dans des ossements qui ont une moins grande valeur, on va dire, archéo-anthropologique, là où l'ADN se situe dans des ossements plus rares, plus compliqués aussi à détruire.
Alors ça évolue aussi, puisque les collègues qui travaillent sur l'ADN essayent de plus en plus de chercher des endroits où c'est plus réplicable, où aussi l'ADN est mieux conservé. On parle de l'os temporal aujourd'hui, mais voilà, ça dans les dents, ça marche assez bien aussi. Donc on essaye d'avoir de pouvoir quelque chose de réplicable et de moins... Voilà, avoir des micro-prélèvements aussi. Mmh. C'est des tout petits prélèvements qui sont faits pour extraire l'ADN et les isotopes.
Rosane Colter, je le disais tout à l'heure, les isotopes, c'est un peu le journal intime, ou en tout cas, ça retrace la biographie d'un individu. Ça nous permet, et ça nous renseigne finalement sur l'enfance d'individus qui sont morts à l'âge adulte. Pourquoi est-ce que ça, c'est une information finalement aussi bouleversante et révolutionnaire en matière d'archéo-anthropologie par rapport aux outils du passé ?
Alors en fait, ce qu'il faut comprendre quand on travaille sur l'isotope, c'est si on travaille sur l'os, on va à peu près, l'os il se remodèle tout le temps. Si on a une fracture, si on se casse la jambe, voilà, l'os il va se reconstruire. Et donc quand on travaille sur les phalanges, sur les côtes, comme je vous disais, on va avoir l'alimentation ou le levier de la personne à la fin de sa vie, dans les 10 dernières années de sa vie en moyenne. Par contre, si on travaille sur les dents, une dent, si on se casse une dent, ben, on n'a plus qu'à la changer. Et donc là, si on travaille sur les dents, on va pouvoir savoir l'alimentation, le lieu de vie de la personne, là au moment où la dent s'est construite. Et donc, on peut travailler, et c'est ce que j'avais fait sur un programme avec des collègues à Vancouver, c'est découper les dents sur la racine, sur le col, sur différentes étapes de la croissance de la dent. Et comme ça, on peut savoir où habite et ce qu'elle a mangé la personne au fur et à mesure de sa croissance. On a des collègues à Marseille qui travaillent beaucoup genre sur le sevrage, Stella Cher par exemple. Donc c'est des questions qui sont affiliées à certains types de collègues. Et c'est grâce à la dent qu'on peut faire ça. Et du coup, vous me posez la question sur...
Finalement, le fait que les isotopes nous permettent d'avoir des informations sur l'enfance d'un individu mort à l'âge adulte dans un passé plus ou moins lointain.
Voilà, et c'est tout à fait révolutionnaire puisque on peut savoir sur la personne adulte ce qu'elle a mangé quand elle était petite, alors qu'avant, pour savoir ce qu'avait mangé la personne quand elle était petite, on utilisait aussi que son squelette, et donc on utilisait que des enfants qui étaient morts, qui n'avaient pas survécu en fait. C'est ce qu'on appelle le paradoxe ostéologique qu'a identifié James Wood au début des années 90, donc c'est déjà assez vieux, qui disait ben, on détermine les enfants qu'on étudie dans l'archéologie sont que des enfants qui n'ont pas survécu. Mmh. Et là, ben, justement, on peut approcher des enfants qui ont survécu, parce qu'on va étudier l'enfance des adultes qu'on a, nous, sur les sites archéologiques. Et on se rend compte, justement, que ces adultes-là, quand ils étaient enfants, ils avaient une alimentation qui justement était meilleure ou était différente que les enfants, eux, qui sont décédés. Donc voilà, ça révèle bien qu'il y a vraiment un effet de source aussi.
Rosane Colter, vous avez travaillé sur un site à Rennes, le couvent des Jacobins, de 2011 à 2013, un site avec un cimetière particulièrement fourni. J'aimerais comprendre comment ce site-là vous a permis de mener avec vos collègues des expérimentations nouvelles en matière d'archéologie isotopique.
Alors le site-là, donc on a plus de 600 squelettes, hein. C'est un couvent avec plein d'aires cimétériales différentes, c'est-à-dire que les frères dominicains pouvaient inhumer dans le cœur de l'église, mais aussi dans la nef, à l'extérieur de l'église, dans la salle capitulaire, dans le cloître. Donc on a plein d'endroits funéraires différents, donc ces endroits-là topographiques, on a pu les... déjà les confronter les uns aux autres pour voir un peu justement l'alimentation des personnes en fonction d'où elles sont inhumées, puisqu'on, évidemment, en fonction d'où on est inhumé, on a des privilèges aussi différents, on est inégaux dans la vie et dans la mort. Et puis ça a pu servir à une collègue, Claudia Jaouen, qui était à l'époque à l'Institut Max Planck, de travailler sur d'autres types d'isotopes comme le zinc, qui sont des isotopes qui travaillent justement, ce que je vous disais tout à l'heure, sur l'apatite, donc sur des matières dures qui sont minéralisées. Et donc, elle a pu mettre au point des méthodes là, sur le couvent des Jacobins qui, après, ont pu servir sur des populations beaucoup plus anciennes, Néandertal, par exemple, pour calibrer ces méthodes et voir qu'on voyait aussi les populations qui étaient plus ou moins carnivores, herbivores. Enfin, on voyait bien la chaîne trophique aussi avec d'autres isotopes. Donc ça a pu servir comme ça d'étude.
Mmh. Ce couvent des Jacobins, il est célèbre pour avoir abrité aussi le cercueil de Louise de Quingot, une découverte qui avait fait grand bruit en 2014 et dont Vincent Charpentier avait évidemment parlé dans l'émission Le Salon Noir sur France Culture avec vous. On pourra bien sûr partager sur le site de l'Entretien archéologique le lien vers cette émission. Louise de Quingot n'était pas la seule enterrée, bien sûr, on le rappelle, au couvent des Jacobins. Vous l'avez dit, il y avait plus de 600 sépultures. Il y avait des sépultures multiples qui témoignaient, Rosane Colter, d'événements violents dans le passé, une avec quatre individus, une autre avec une trentaine d'individus. Comment, dans ce cas-là, l'archéologie isotopique vous a permis de définir une identité à ce groupe composite d'humains qui étaient enterrés là et qui étaient morts vraisemblablement de façon violente?
Alors là, on avait fait aussi une émission à l'époque. En fait, c'était donc on avait deux sépultures multiples qu'on a retrouvées devant le couvent des Jacobins, donc à l'extérieur des murs. Et donc, on avait pu chronologiquement rattacher ça au XVe siècle, à un moment où Anne de Bretagne et ses alliés ont perdu la bataille de Saint-Aubin-d'Aubigné et du Cormier, je veux dire, et ils sont donc vraiment affaiblis et ils se retranchent dans la ville de Rennes. Et ces sépultures-là, donc elles ont un profil démographique particulier. C'est ça, j'aurais dû commencer d'ailleurs. Donc, ce sont que des hommes avec beaucoup de traces de coups. Hein. On a des sur les crânes, sur les membres inférieurs, sur le dos, on voit de l'acharnement. En fait, il y a des squelettes qui sont polytraumatisés. Et donc ces deux sépultures-là, on se demandait donc si elles faisaient plutôt partie du camp d'Anne de Bretagne ou du camp français à l'époque de Charles VIII, donc qui était commandé par le commandant de la Trémoille, sachant qu'Anne de Bretagne, elle avait des alliés à l'époque, donc qui est l'allié anglais avec Charles VII d'Espagne et puis Maximilien de Habsbourg, avec qui elle était fiancée. Et donc, pour essayer de démêler qui était où dans ces sépultures, on a travaillé sur les isotopes du strontium, du soufre et de l'oxygène. Donc, le strontium permet de nous révéler un peu le sol, si les roches sont plutôt sédimentaires ou métamorphiques. L'oxygène révèle plutôt, lui, le climat de la personne, l'altitude. Et le soufre, plutôt, lui, le rapprochement par rapport à la côte. Et donc, ces trois isotopes sont très intéressants pour un milieu breton, puisqu'on a un milieu de côtier et métamorphique, alors que juste après, on va avoir le grand bassin parisien. Et donc, ils sont très diagnostiques, en fait, pour essayer de voir si on a des populations qui sont plutôt d'origine locale ou pas. Donc, on avait pris, là, encore une fois, hein, la faune comme référence. Et avec un collègue, Clément Bataille, on a fait des cartes de probabilité, en fait, en combinant les trois isotopes, donc soufre, strontium et oxygène, pour essayer de voir d'où venaient les squelettes. Donc, on a pu faire comme ça 8 squelettes sur la grande tombe de 30 individus et 2 sur la petite tombe. Et on s'est rendu compte qu'on avait des profils d'origine géographique qui étaient complètement différents. Donc, c'est des cartes qui vont plutôt exclure des zones que nous donner vraiment une localisation de vie. Mais sur la petite tombe de 4 sujets, ça exclut justement les bassins sédimentaires, ça exclut les zones aussi vraiment continentales. Donc, on a ça marche très bien avec des sujets plutôt bretons. Alors que sur la grande tombe, là, on voit qu'on a plutôt des sujets qui sont exclus vraiment de la Bretagne. Et donc, on peut penser que sur le même lieu, enfin, en tout cas à proximité, on a enterré des sujets du français, hein, de l'armée française, et puis d'autres qui sont vraiment liés au camp breton.
Tout d'un coup, du coup, l'histoire se réécrit d'une autre façon grâce à cette enquête isotopique. Et Rosenkolter, on peut parler aussi de votre travail que vous conduisez à partir de ces isotopes sur la recherche, finalement, des inégalités dans le passé à partir de ces isotopes. Vous avez conduit un projet qui s'appelle AIDE pour Archaeology, Inequalities and Diet. Cette thématique-là des inégalités sociales, on y vient. Rosenkolter, elle est épineuse en matière d'archéologie et d'archéoanthropologie. Classiquement, quels sont les éléments matériels dont on dispose pour dire qu'il y a des inégalités dans un passé lointain ?
Eh bien, sur les squelettes, on va pouvoir travailler sur l'archéologie funéraire. Maintenant, on sait qu'il y a des biais parce que c'est pas parce qu'on a du mobilier accompagnant le squelette que ça témoigne forcément d'une richesse. Ça peut être du mobilier qui est déposé, ça peut être du mobilier porté. Les archéologues peuvent travailler maintenant à partir de... C'est ce que fait l'équipe de Timothy Roller aux États-Unis, donc c'est un article qui avait été bien relié médiatiquement, je crois que c'était par 2018, quelque chose comme ça, où il parlait de la différence, des différentes tailles des maisons, en fait. Il regardait la variabilité dans la population. S'il y avait des tailles qui étaient plutôt homogènes, on pouvait dire peut-être que la société était plutôt égale, et puis s'il y avait des tailles vraiment hétérogènes, on avait peut-être des inégalités. En fait, en archéologie, on cherche des indices. On a très peu d'indices. On aimerait bien avoir un indice de Gini comme on l'a aujourd'hui sur les inégalités de salaire ou travailler sur les espérances de vie. En archéo-anthropo, l'espérance de vie, c'est très compliqué parce qu'on a des populations qui sont mélangées. On ne peut pas savoir qui est enterré à quelle date, même si carbone 14, on a des données, mais c'est à plus ou moins 30 ans en général. Donc, on peut pas. C'est très compliqué de faire de la paléodémographie de façon claire. Et donc, ce qui nous reste, c'est étudier peut-être l'alimentation en faisant des hypothèses de groupe. Donc, c'est ce qu'on avait fait déjà aux Jacobins à l'époque. On avait regardé, en fonction du lieu d'où on était enterré, mettre des hypothèses qu'on avait des groupes qui étaient plus ou moins favorisés et comparer ça. Et ça marchait assez bien. On voyait que les sujets du cœur de l'église avaient une alimentation qui était beaucoup plus riche que justement ceux qui étaient enterrés à l'extérieur de l'église. Donc, on voyait, on arrive à voir ça à l'échelle d'un site. Et donc, sur le projet AIDE, j'avais continué à travailler là-dessus, mais en travaillant sur un autre site rennais qui a été fouillé par Romuald Ferrette et étudié par Élodie Cabot pour l'anthropologie, où là, on a le cimetière de l'Hôtel Dieu, donc qui est un vaste cimetière, la Cochardière, où on a presque 500 sépultures aussi, que l'étude a été finie il y a très peu de temps. Et donc, on a étudié presque 7% de ces tombes. Et en regardant où elles étaient aussi enterrées, en regardant, en disant qu'il y avait peut-être un centre, un cœur dans le cimetière, et puis des zones périphériques. Et donc, on voit, c'est pareil, que les sujets qui sont enterrés dans le centre, ils ont une alimentation qui a l'air plus riche, en tout cas en azote et en carbone, que ceux qui sont enterrés en périphérie. Donc, on avait fait comme ça un centroïde et des extérieurs. Et puis, c'est là-dessus aussi qu'on a travaillé sur la carte d'identité de chaque personne. On a regardé comment elle évaluait. Mmh. Et donc, ce qui nous a conduit à essayer de chercher, en fait, un indice, comme l'indice de Gini, une dispersion, en fait, de ces valeurs. Parce que, donc, on disait que c'était très intéressant et que c'était chouette d'utiliser l'isotope parce qu'on avait la faune locale à chaque fois et donc on arrive à voir précisément à travailler. Mais c'était aussi un problème parce qu'on a du mal à comparer les sites entre eux. Donc, il y a deux lectures hein, pour l'archéologue. C'est on étudie au sein de notre site et puis après, essayer de faire des choses un peu plus larges. Et donc, le projet AIDE, c'était travailler sur les acides aminés. Donc, c'est d'autres types d'isotopes. Donc, c'est à partir des protéines. Et là, on peut se dédouaner, en fait, de la faune. Puisque sur les protéines, on n'a pas besoin du référentiel. Ça décompose vraiment de façon précisément le régime alimentaire et c'est beaucoup plus précis. Mmh. Et donc, j'ai pu, comme ça, extraire les acides aminés de plusieurs individus de l'Hôtel Dieu pour justement enlever cette faune.
Alors, quand on parle d'inégalité, Rosenkolter, à partir de cet indice de l'alimentation, ça me pose une question. Est-ce que les marqueurs alimentaires et les marqueurs d'inégal accès à une certaine richesse alimentaire sont-ils toujours un indice d'inégalité ou bien est-ce que, selon les époques, c'est plus ou moins vrai ?
En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui mangent beaucoup plus que d'autres, deux fois plus que d'autres. Alors, au bout d'un moment, c'est pas comme une égalité de richesse où on peut accumuler la richesse à foison, on va dire, hein, aujourd'hui, entre Monsieur Bolloré et vous, il y a une sacrée différence.
Il y a un petit monde.
Donc là, lui, il peut accumuler. Par contre, entre son alimentation et la vôtre, s'il mange déjà deux fois plus que vous en protéines, ce sera déjà très important. Donc, on a toujours cette barrière-là biologique qui va faire que, évidemment, ce sera beaucoup plus cadré. Mais on voit quand même les populations qui manquent de nourriture. Aujourd'hui, si on va regarder d'un côté ou de l'autre de la frontière de Gaza, je pense qu'on aura des marqueurs sur ces individus-là qui sont marqués à jamais, en fait. Puisqu'ils ont un traumatisme, donc dans les dents, c'est ce que je disais, ce sera écrit. Et donc, on arrive quand même à voir comme ça des différences, en fait. Oui. Après, c'est l'interprétation. C'est l'interprétation, l'intérêt, c'est de travailler avec la culture. Le géochimiste, la personne qui travaille sur l'ADN, l'anthropologue qui travaille sur ses squelettes, il ne faut pas qu'il travaille tout seul, il travaille avec l'archéologue. Nous, c'est une remise en contexte, en fait, à chaque fois. Donc, mais c'est des choses qu'on peut discuter ensemble.
Là, on parle d'inégalité sociale, d'inégalité de richesse, d'aisance, on va dire. Est-ce que d'autres types d'inégalités peuvent être mises en évidence par l'étude de ces isotopes? Je pense, par exemple, à des inégalités entre hommes et femmes.
Alors, oui, c'est une question qui nous a beaucoup intéressés avec Claire Jaouen. Donc, on a regardé dans l'indice de dispersion entre les plus riches et ceux qui mangeaient le plus et ceux qui mangeaient le moins, et en regarder dans les 10% ceux qui mangeaient le plus qui c'était dans la nécropole où ils étaient, et les 10% qui mangeaient le moins. Et en général, les personnes qui mangent le moins sont les femmes. Donc alors c'est pareil, on se dit c'est normal, elles ont un plus petit gabarit, mais on a travaillé aussi pour sortir un peu des isotopes, on a pu travailler sur les statures aussi, pour regarder, et on se rend compte qu'on a toujours une différence de 10 cm en général entre les hommes et les femmes. Mais cette différence-là, elle évolue, elle n'est pas la même devant les sociétés, donc ce n'est pas une différence biologique en fait, on n'est pas programmé dès le départ pour avoir 10 cm de différence. D'ailleurs, dans une fratrie, il n'y a pas forcément 10 cm de différence. Donc c'est vraiment aussi, c'est aussi l'apport biologique, l'apport des protéines qui va créer cette différence. Et une fillette qu'on va moins alimenter que son frère, du coup, elle va peut-être aussi moins grandir et ça se revoit après, c'est quelque chose de plus global.
Ce programme Aide Rosenkolter, il s'est achevé en 2023. Dernière question, quelle suite vous pourriez donner à ce programme-là? Quelles sont les questions encore en suspens, les développements encore à apporter pour améliorer cette technique déjà révolutionnaire des isotopes?
Là, je travaille actuellement sur une publication donc qui va essayer de synthétiser. En fait, c'est un peu ces marqueurs d'inégalité de santé. Et puis, sur le projet AIDE, je me suis rendu compte, contrairement sur les acides aminés, c'est beaucoup plus précis, mais c'est quand même très onéreux et ça prend beaucoup de temps. Et donc, c'est une démarche qui va être difficile à démocratiser pour faire sur tous les cimetières. Et donc, moi, j'aimerais bien que la méthode isotope standard, déjà carbone-azote, puisse être démocratisée et quasiment se fasse sur tous les cimetières qu'on trouve, puisque c'est quelque chose qui n'est pas techniquement compliqué, qui n'est pas non plus sur un os qui est aussi, enfin qui peut être étudié. Donc je pense que ça pourrait être vraiment démocratisé et puis qu'on arrive à le valoriser et vulgariser plus facilement, quoi.
Merci beaucoup en tout cas à vous, Rosenkolter, d'être venu aujourd'hui nous parler de cette technique, je le disais, révolutionnaire de la méthode isotopique, et comme quoi finalement la géochimie peut nous éclairer sur l'histoire, les cultures du passé, toutes les sciences sont de la culture. Merci infiniment d'être venu à notre micro aujourd'hui. À très bientôt.
Merci.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansini, à la réalisation Hélène Triguéros et Olivier Bétard. Merci à Anthony Thomasson et Jean-Guilain Meige, aujourd'hui à la technique, et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.